מוטי גוגי מגוג, ספיר סונדיס. טוב. Alors, chez les maîtres contemporains, je schématise beaucoup, je ne demandez pas des détails, il y a deux thèses. Soit que cette guerre de Gog et Magog a commencé à la Première Guerre mondiale et s'est achevée à la guerre des Six Jours, ça c'est la première thèse, soit qu'elle n'a pas encore commencé. Non, on préfère la première. Hein. D'accord, ça dépend du mérite. La première thèse se fonde sur le fait que les grandes persécutions contre Israël à l'échelle internationale ont commencé à la Première Guerre mondiale. Et que finalement, nous avons été victorieux de cela à la guerre des Six Jours. Est-ce que c'est clair? Le reste, c'est des escarmouches. La guerre de Liban, du Liban, s'est faite en dehors d'Israël. Et etc. Bon, je vous cite l'autorité qui a enseigné cela dans un livre, ou dans toutes les sources, et c'est le Rav Kasher, dans un livre qui s'appelle Milchemet Yom Hadin, pour ceux qui veulent des références. Donc, Rav Kasher est mort depuis quelques années, mais il a assisté à la guerre des Six Jours, et quelques mois après la guerre des Six Jours, il a publié ce livre en parlant de Gog et Magog, et en citant d'autres autorités, et cette première thèse, c'est que c'est une lutte des nations du monde contre Israël pour empêcher qu'Israël existe, qui commence en 1917, mais qui s'est achevé avec le triomphe d'Israël à la guerre des Six Jours. Et si vous savez ce que c'était l'armée juive avant 1917, cloum, choum, rien, ça n'existait pas. Imaginez, quelque temps après la guerre des Six Jours, qu'on a vaincu les armées arabes avec les armes qui avaient les armes du monde entier, et le monde entier coalisé contre nous. Je ne sais pas si vous avez vécu le temps de la guerre des Six Jours, le monde entier a interdit qu'on envoie une cartouche à Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, d'ailleurs, qui a déclenché ça? C'est De Gaulle soi-même, l'embargo. Donc, voilà donc ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que dès que s'achève l'exil d'Israël, il y a un grand danger qui apparaît, c'est la guerre de l'humanité contre Israël, par Arabes interposés. Et ça s'appelle Gog et Magog. Alors encore une fois, deux thèses, où on a déjà épongé ça, ou bien c'est pas encore commencé. Vous avez compris, si on prend les choses à deux niveaux différents de mérite. Si vous me demandez mon avis, je peux vous dire que ça, on souhaite la première thèse. C'est clair. Et la Gemara continue en disant, Machal et Madavardome. Et à quoi ça ressemble tout ça qu'on vous a enseigné? Dis-moi à quoi ça ressemble. Les Adam, Shehaya Mehaler Baderech, à un homme qui marchait en chemin, ou Pagarvozev. Et là, c'est jeté sur lui un loup. Benitzal, il était sauvé du loup. Veria, mais sa père, Veoler, m'a assaisé. Alors il racontait l'histoire du loup. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Vous êtes dans le machal, dans la comparaison. Pagarboari, un lion s'est jeté sur lui. Benitzal, il a été sauvé, Muenu de lui. Veria, mais sa père, Veoler, m'a assaisé. Alors il racontait quoi? L'histoire du lion. L'histoire du loup, ça devenait pas secondaire, mais antérieur. Pagarbo Nachash, il a rencontré un serpent, Benitzal, il a été sauvé, Mumenu de lui, Shachar Maaseshneem, il a oublié, et le lion et le loup, Veyam et sa père Veoler Maasenachash, et il a raconté l'histoire du serpent. Afkar Israël, ainsi Israël, Tzarot Aharonot, les dernières Tzarot, comme on traduisait, malheur, si vous voulez, mais chaque échot et tarichot font oublier les premières. Vous avez compris donc comment le machal de la fin de la Sougia éclaire la dialectique de l'enseignement qui était dite à ce propos. Alors, à ce propos, je vais poser une question. Il semble qu'il y ait une contradiction entre la fin de la Sougia et le début. Parce qu'au début, on s'ingénie à démontrer qu'il faut se rappeler des premières choses. Et à la fin, ils sont nous dit, les dernières font oublier les premières. C'est contradictoire. Qui peut répondre? Vous avez compris la question? Hein? T'as pas compris? Depuis le début de quoi on parle, on s'ingénie à démontrer que les premiers événements, il faut continuer à les commémorer. Maskirin, Tiad, Mitzrayim, Balelot. On se rappelle qu'Israël s'appelait Jacob, même au temps du Messie, on se rappellera la sortie d'Égypte, Nahon. Et à la fin du Machal, on nous dit, car Israël, ainsi Israël, Tsarot Ahaonot, les derniers malheurs font oublier les premiers valeurs, les premiers malheurs. Et tu m'as dit qu'il faut s'en rappeler. J'ai compris la question maintenant? Non. Alors, la réponse est très simple. Qu'est-ce qu'on se rappelle dans la sortie d'Égypte? On se rappelle de la délivrance. Les malheurs, on les oublie. Et c'est ce que dit la fin de la Gemara. Quand on est occupé au dernier malheur, on oublie les dernières souffrances, on oublie les premières souffrances. Mais la guérison, on n'a pas le droit d'oublier. D'accord? Ça veut dire que la mémoire d'Israël, le souvenir de la mémoire d'Israël des persécutions d'Égypte, c'est oublié. Qu'est-ce qu'on rappelle? La délivrance de ça. Mais le souvenir des souffrances contemporaines, ça on n'oublie pas. Okay? Vous avez compris que comment la Gemara enseigne et qu'il n'y a pas contradiction. Bien, alors voilà un exemple de l'enseignement de la Gemara. Je reviens à la question que j'ai posée avec le texte de la Torah par rapport à la Haggadah. C'est que, dès la sortie d'Égypte, on est averti qu'il y aura à commémorer cet événement, c'est-à-dire qu'il y aura à l'achever. Et, on peut le dire de cette manière, l'enseignement des Chachamim se lit à deux niveaux. « Vachachamim omrim, kol yemei chayecha lehavi limot ha-mashiach » Ça se lit à deux niveaux. Pour faire aller la mitzvah jusque au temps messianique, et ça se lit très pshat pour nous amener jusqu'au temps messianique. C'est-à-dire, si on n'avait pas commémoré la sortie d'Égypte, même pendant la nuit, on ne serait jamais arrivé vivant au temps messianique. On aurait oublié qu'un jour, il y avait le jour. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, ben, je crois que vous avez là, en tout cas, un enseignement du Mishnah. Si vous avez encore des questions là-dessus, on l'étudie. Sinon...
À la fin, la synthèse des deux, on retient les deux enseignements,
c'est-à-dire... Oui, c'est la question de Guil tout à l'heure. Ça veut dire que on a donné force de loi au fait de mentionner chez Théamer Yitzhak, Nisraim, Balelot, mais l'enseignement des Chachamim a gardé sa valeur. On commémore Pessah pendant tout le temps de l'exil, y compris le temps messianique. Sinon, dès qu'on est retourné en exil, on aurait arrêté de commémorer Pessah. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire comprendre ça. On est tellement familier au fait qu'il faut commémorer Pessah dans l'exil qu'on ne se rend pas compte du problème. Mais que ça veut dire commémorer Pessah? C'était au temps où il y avait le temple et qu'on rappelait la délivrance qui a fait que nous étions en Eretz Israël. On est retourné dans l'exil. Alors, dans l'exil, on va commémorer la sortie de l'exil. Il y a une difficulté. Ramé m'a dit, on le fera quand même. Et c'est ça qui nous a sauvés, qui nous a menés jusque-là. Je te demanderai comment ça se relie. C'est une chose que vous n'avez peut-être pas, mais la Gemara a enseigné de façon très claire, c'est repris par Nachmanide par la suite. Quel sens ça avait de continuer à pratiquer la Torah une fois retourné en exil, alors que la Torah est très claire, les commandements que je vous donne pour les pratiquer en Eretz Israël. La Torah est très claire. C'est ma formulation, mais il y a divers... 10 000 versets comme ça. C'est clair. Hein? Et alors, Nachmanide a enseigné, il faut continuer à pratiquer la Torah en exil pour pas l'oublier. Mais elle n'a de valeur que pratiquer en Eretz Israël. Ça vous est interdit de dire ça aux Juifs de la Galoute. Vous avez compris pourquoi? Hein? Parce qu'ils vont dire, ah, c'est que pour pas l'oublier, alors c'est pas grave. Et ils vont l'oublier. Vous avez compris le problème?
Que la Haggadah mentionne quand même les afflictions d'Égypte. En dehors de ce qu'elle mentionne, bien sûr, la délivrance.
Comprends-le dans le machal de la Gemara. Okay. Bien sûr, celui qui a été sauvé du lion, il se rappelle qu'il avait été sauvé d'un loup. Mais l'expérience affective du danger duquel il a échappé, c'est plus celui du loup, c'est celui de. Je donne un exemple. Les générations d'après l'Inquisition d'Espagne, eh bien, ils ont vécu leur sortie d'Égypte, Inquisition d'Espagne. Et les générations rescapées de la Shoah ont vécu la sortie d'Égypte, rescapées de la Shoah. C'est ça qu'ils vivent. Le souvenir de souffrance d'Égypte, nous le connaissons, mais par mémoire intellectuelle. Je me rappelle, je me rendais, quand j'étais au Talmud Torah enfant, on étudiait les Midrashim des persécutions d'Égypte, on apprenait des choses épouvantables, mais ça nous apparaissait être du Midrash, comme on dit en vulgairement, de la légende. Et, par exemple, le Midrash qui explique que quand les Égyptiens faisaient construire les pyramides, qu'il leur manquait des briques, ils prenaient des enfants hébreux pour les mettre comme briques. Et, bon, Midrash. Et puis, on ne savait pas que c'était possible dans une civilisation humaine de faire ça. Et quand on a commencé à savoir ce que faisaient les nazis avec les juifs, j'ai dit, bon, c'est pas du Midrash. Mais de quoi on était angoissé de ce que faisaient les nazis? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est à peu près dans ce sens. Donc.
De la citation que vous avez faite sur la Gemara, vous parlez du loup, du lion et du serpent.
Oui. À quoi ça correspond?
Ah c'est
bon.
Que
je l'ai échappé bête.
Dans l'ordre de ces deux noms, le loup, bon, on voit que c'est quelque chose quand même différent. Le lion, c'est être sauvé d'un lion, c'est.
Oui.
Alors le serpent, c'est pas tellement. On dit on fait deux pas en arrière.
Tu... Oui, j'ai jamais rencontré un serpent. Alors, il y a des serpents très dangereux. Tu n'as pas entendu parler du serpent monétaire. Il n'y a pas de plus terrifiant que de rencontrer un vrai serpent. Un serpent. Le serpent a un regard qui tue. Si c'est un vrai serpent. Qu'est-ce que tu veux me faire dire?
Non, mais là, le serpent, c'est, on parle de Gog et Magog. Je veux dire, on associe Gog et Magog au serpent.
C'est clair, la Gemara veut dire que le serpent, c'est plus terrible que le lion et que le loup, c'est clair. C'est pour ça que je te réponds comme ça. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un serpent. Les, ceux qui vivent dans les villes civilisées et qui rencontrent les serpents dans des romans d'aventure, ils savent pas que c'est un serpent. Vous avez compris ce que je veux dire? D'ailleurs, un lion, la même chose. Passez une bonne nuit et méfiez-vous des serpents.
C'est dingue ça.